Je ne sais pas si quand vous étiez petit, vous aviez, comme moi, une imagination galopante. D'ailleurs, pour moi, ça n'a pas vraiment changé. Quand je prends le métro, par exemple, il m'arrive de m'évader un peu dans mes pensées. Je ne sais pas pourquoi, c'est pourtant très intéressant d'être dans le métro, mais ça m'arrive quand même. Et je peux avoir ce genre de pensée. Imaginez que brusquement, le métro s'arrête à une station inconnue. Les portes s'ouvrent et là, vous découvrez non pas le quai souterrain habituel, avec la trombe humaine qui s'apprête à se précipiter dans la rame, mais vous découvrez un lac au pied d'une montagne. Découvrez un paysage magnifique, des oiseaux qui chantent, et des Parisiens émerveillés par une découverte magnifique, une découverte qui change tout. Dites-moi franchement, est-ce que vous resteriez dans le métro pour continuer le trajet prévu, ou est-ce que vous ne vous précipiteriez pas pour descendre du métro avant qu'il ne reparte? Alors c'est vrai, Jésus n'a pas raconté cette parabole du métro et du lac pour parler du royaume de Dieu. En revanche, il en a raconté deux très brèves qui communiquent, je pense, une idée un peu semblable. J'ai bien dit un peu. Il s'agit de la parabole du trésor caché et des perles. Et je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 44 et 46. Matthieu 13, 44 à 46. Dans la Bible bleue, c'est à la page 952. Et nous poursuivons par ces deux paraboles, une série actuelle sur les paraboles de Jésus rapportées dans l'évangile de Matthieu. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles, ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Deux paraboles très courtes, qui ont été racontées dans le même contexte, qui sont guidées par la même idée principale. Il y a aussi des différences entre elles, qui sont intéressantes d'ailleurs, pour comprendre ce que Jésus a voulu enseigner à ses disciples concernant ce qu'il appelle le royaume de Dieu ou le règne des cieux. Les deux expressions sont synonymes. Rappelons juste à ce sujet que le royaume de Dieu, c'est l'un des sujets centraux de l'enseignement de Jésus. Et nous avons vu, il y a quelque temps maintenant, au début du chapitre 13, que Jésus utilise des paraboles, des histoires illustrées, tirées d'images quotidiennes. Il utilise ces paraboles pour donner un aperçu d'une réalité qui est à la fois grandiose et mystérieuse. Il parle du mystère du royaume de Dieu. L'irruption inattendue d'une réalité divine dans la réalité humaine. Ces deux, ou plutôt l'ensemble de ces paraboles même, sont complémentaires. Aucune ne résume à elle seule ce qu'est le royaume de Dieu. C'est plutôt comme une fresque, en quelque sorte, que Jésus peint et qui, prise dans son ensemble, nous aide à cerner ce qu'il veut dire lorsqu'il parle du royaume de Dieu. On va examiner ce matin deux idées fortes que l'on retrouve dans les deux paraboles que j'ai lues. D'abord, une découverte qui émerveille, et puis une rupture qui s'impose. Une découverte qui émerveille. Il y a plusieurs petites surprises dans cette parabole. La première, celle du trésor caché. Cette histoire nous présente un homme qui se trouve, on ne sait pas pourquoi, dans un champ qui n'est pas le sien. Et il y trouve un trésor caché. Alors, il paraît qu'à l'époque, ça n'était pas complètement bizarre, c'est pas un peu à la Fort Boyard, ou c'était quelque chose qui pouvait arriver parce qu'il n'y avait pas vraiment de système bancaire et donc il arrivait que les gens enterrent leur fortune dans un champ. Mais un trésor caché, par qui, pourquoi? Le texte ne nous le précise pas et nous faisons sans doute fausse route en poussant trop loin les détails de la parabole. Ce que Jésus veut qu'on comprenne, c'est que cet homme a trouvé un trésor auquel il ne s'attendait pas du tout. Un trésor caché auquel il ne s'attendait pas. Alors qu'est-ce qu'il fait devant cette découverte du trésor? Est-ce qu'il est allé en parler à quelqu'un? Est-ce qu'il a emporté le trésor pour l'amener chez lui? Eh bien non, la parabole nous dit qu'il prend conscience de la valeur inestimable de ce trésor et dans un premier temps, il le cache, nous dit le texte, Alors c'est intéressant parce que le trésor était déjà caché. Alors est-ce que ça veut dire qu'il l'a caché encore mieux? Ou bien simplement est-ce qu'il l'a remis là où il était? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il laisse ce trésor caché et il se précipite pour aller vendre tous ses biens afin d'acheter le champ entier. Comment expliquer une réaction aussi radicale? La seule explication possible, c'est que l'homme s'est trouvé dans ce champ face à face avec une réalité qui changeait tout pour lui. Devant ce trésor, il a compris que plus rien ne pouvait être comme avant. Et lui, dont on a l'impression qu'il se trouvait là par hasard, eh bien, il est amené à changer de vie. Un geste radical, il vend tout ce qui lui appartient, parce qu'il a trouvé un bien d'une valeur inimaginable. Il me semble que la première idée que Jésus veut souligner ici, c'est l'idée d'un émerveillement. Et de manière émouvante, Jésus nous dit que l'homme qui a trouvé le trésor dans sa joie va vendre tout ce qu'il possède et acheter le champ. Il n'a pas fait de savants calculs, il n'a pas étudié les perspectives du marché agricole pour les années à venir. Non, il a trouvé une réalité qui l'a émerveillé au point qu'il a été prêt à tout pour la saisir. Par cette image très courte, très simple, Jésus indique à ceux qui l'écoutent que cette réalité dont il leur parle, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il est impensable de la laisser passer comme si de rien n'était. Et nous devons peut-être prendre un instant pour méditer ce que Jésus nous dit ici. Il nous présente un homme qui, quand il a compris qu'il était face à ce qu'il y a de plus précieux, il n'a pas tergiversé. Et pourtant, la découverte l'a pris par surprise. Mais dans sa joie, il n'a pas résisté au choc de la bonne nouvelle. Il a compris que ce trésor, il fallait le saisir sans attendre. La seconde parabole, celle des perles, elle communique le même émerveillement essentiel. Mais là où l'homme dans le champ semble avoir trouvé le trésor par hasard, par surprise, eh bien là, le marchand de la parabole des perles était déjà à la recherche de belles perles, nous dit le texte. Et c'est peut-être pour ça que cette parabole est un peu moins frappante à première lecture. On a un homme qui cherche déjà et qui, semble-t-il, trouve précisément ce qu'il cherchait, une belle perle. Mais si on regarde attentivement, on s'aperçoit ensuite que ce marchand a renoncé lui aussi à tous ses biens. Et donc, sous-entendu, il a renoncé aussi à toutes les perles qu'il avait déjà trouvées pour saisir celles qui étaient, nous dit sobrement le texte, de grande valeur, de très grande valeur. Notons aussi que le marchand, c'est intéressant, il cherchait des perles, peut-être qu'il les cherchait dans la nature, je ne sais pas. Il les cherchait pour les vendre, puisque c'est un marchand. Mais ici, c'est lui qui vend tout ce qu'il a, par ailleurs, pour s'acheter cette perle unique. Alors, cela dit, je crois qu'ici encore, on ferait fausse route, on s'égarerait si on poussait trop loin chaque détail de l'histoire. Certains commentateurs soulignent qu'ici, c'est le marchand, si on regarde bien, qui est comparé au royaume de Dieu, et non pas la perle elle-même. Et donc, certains pensent que Jésus nous invite plutôt à nous identifier aux perles, qui doivent se laisser trouver par Dieu, en quelque sorte. Alors, que Dieu vienne nous chercher dans notre égarement, c'est vrai par ailleurs, même si ce n'est pas tellement comme des perles qu'il nous trouve. Bon, ça c'est toute une autre histoire. Mais je ne pense pas que ce soit le sens de cette parabole. Il me semble que Jésus ici raconte deux histoires qui illustrent chacune à sa façon le royaume de Dieu. Et on voit que dans les deux cas, la chute, la conclusion de la parabole, elle est la même. On fait face à un homme qui renonce à tout ce qu'il appelait sien, tous ses biens, pour saisir un bien infiniment supérieur. Mais c'est quand même intéressant de voir que dans la première parabole, on a un homme qui ne cherchait pas et qui a trouvé, et dans la seconde parabole, un homme qui cherchait et qui a trouvé. Est-ce que Jésus, en ayant recours à ces deux images différentes, a voulu illustrer de deux manières différentes, de saisir le royaume de Dieu ? C'est possible. Certains ne cherchent pas et tombent dessus en quelque sorte. D'autres cherchaient et trouvaient peut-être de belles choses. Mais lorsqu'ils ont rencontré la perle unique, c'est d'ailleurs de là, je pense, que vient l'expression « la perle rare » de cette parabole, lorsqu'ils ont rencontré la perle unique, dont la valeur est incomparable et inestimable, eh bien, ils ont compris que celle-ci ne pouvait pas simplement être rangée sur une étagère à côté des autres perles, à côté des autres trouvailles de la vie. Elle revendique une place unique. Elle revendique une place... elle ne tolère aucune rivale. Et peut-être que certains parmi nous, ce matin, sont tombés sur le royaume de Dieu, en quelque sorte, alors même qu'ils ne le cherchaient pas vraiment. Je me souviens d'une jeune femme qui racontait son témoignage il y a un certain nombre d'années, ce n'était pas dans cette église. Et par les questions qui lui étaient posées, elle était interviewée en quelque sorte, dans le cadre de ce témoignage. Par les questions qui lui étaient posées, j'ai remarqué qu'on cherchait un peu à lui faire dire ce qu'on entend souvent dans les témoignages, c'est-à-dire j'ai cherché partout, rien ne remplissait le vide abyssal de mon existence, etc. De fait, il n'est pas rare que les choses soient vécues ainsi, et c'est une des manières, merci Seigneur, dont Dieu se révèle. Mais pour cette jeune femme, les choses ne s'étaient pas passées comme ça. Elle n'était pas spécialement malheureuse. Elle a dit « Non, je n'étais pas spécialement malheureuse. » Elle vivait une vie assez insouciante. Mais un jour, elle s'est retrouvée face à Jésus-Christ, tel qu'il se révèle dans sa parole. Elle a compris qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Elle a pris de plein fouet le choc entre sa vie insouciante et l'irruption de la vérité de Dieu dans ce confortable tissu de mensonges. Elle a capitulé devant Dieu, non pas parce qu'elle était consciente d'un grand manque. Il y avait un grand manque. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais elle n'en était pas consciente. Mais lorsqu'elle a compris qui est Jésus, elle a compris que ce serait une folie de continuer à faire comme si de rien n'était. Pour d'autres, la découverte de l'Évangile est effectivement l'aboutissement d'une recherche inlassable, avec beaucoup d'échecs, avec beaucoup de souffrances, jusqu'à ce qu'enfin ils comprennent que ce qu'ils cherchaient partout ailleurs ne pouvait être comblé qu'en Jésus-Christ. Peut-être donc que l'association de ces deux images est pour Jésus une manière de montrer discrètement que ces deux manières de venir à l'Évangile aboutissent à la même conclusion, la valeur suprême du royaume de Dieu. Pour nous qui entendons ces paraboles aujourd'hui, et notamment pour ceux d'entre nous qui sont des chrétiens de longue date, nous devons nous demander, je crois, si nous sommes encore émerveillés par le royaume de Dieu, si nous nous laissons encore heurter de plein fouet, encore et encore par le choc de la bonne nouvelle. Un choc qui doit être sans cesse renouvelé, parce que justement, il n'entre jamais, il ne doit jamais entrer dans le petit cadre confortable que nous aimerions donner à notre vie. Cette bonne nouvelle ne peut pas être intégrée dans notre vie comme notre métier, nos hobbies, notre famille. Elle revendique toute la place, elle redéfinit notre existence. Et nous sommes invités par Jésus à être des hommes et des femmes qui, dans leur joie, comme celui qui a découvert ce qu'il y a de plus précieux, eh bien, ne considèrent plus rien comme nous appartenant réellement, parce que ce qui nous importe, c'est de saisir le royaume de Dieu, de saisir cette vie nouvelle avec Jésus-Christ. Quelles sont ces autres perles, pas toujours des perles d'ailleurs, dont Jésus nous appelle à nous défaire pour nous accrocher uniquement à lui? Comme toujours, on pourrait citer une multitude d'exemples. Je vais en prendre trois. Vous me direz, ils sont assez classiques, mais c'est, je crois, parce qu'ils sont assez pertinents dans notre contexte, peut-être en particulier dans un contexte parisien. Je m'inclus, bien entendu, dans ces exhortations. Il y a tout d'abord la réputation. Le prestige personnel, alors qu'il soit professionnel, social, auprès d'un cercle d'amis, peu importe. Jésus, le Fils de Dieu, a été prêt à s'incarner, à vivre dans des conditions modestes, à subir l'infamie de la croix. Et nous serions préoccupés par notre réputation, par notre prestige personnel. La seule réputation qui devrait nous importer, c'est celle de Jésus-Christ, à laquelle nous contribuons en bien ou en mal, par notre façon d'agir. Est-ce que nous avons honte de l'Évangile parfois? Je sais que cela est le cas pour moi, parfois. Peut-être pour certains, peut-être que certains ne veulent surtout pas, par exemple, que leurs collègues sachent qu'ils aient un engagement, qu'ils ont un engagement chrétien. Surtout ne pas en parler, ou alors le minimiser à l'extrême. Une activité de plus. Avons-nous peur pour l'image que les autres auront de nous si nous leur parlons de l'Évangile et tout ce que cela change pour notre vie? Ou même d'ailleurs avec les frères et sœurs dans la foi, Est-ce que nous avons peur de nous rendre vulnérables, de parler honnêtement de ce qui se passe dans notre vie, de nos difficultés, de nos luttes, du décalage parfois entre la réalité de notre vie et ce que nous lisons dans la parole ? Parce qu'il faut quand même préserver une image de marque, une image de super chrétien. Que Dieu nous préserve de cela. Un autre exemple classique, l'argent. En quoi est-ce que la découverte émerveillée de la bonne nouvelle doit transformer le rapport à l'argent ? Eh bien, n'est-ce pas en voyant dans ses biens que Dieu nous confie le privilège et la joie de soutenir de diverses manières l'œuvre du Seigneur ? Ou est-ce que je continue à m'accrocher à l'argent comme quelque chose qui m'est dû, alors qu'en fait c'est l'argent du Seigneur, notre Créateur, on ne serait même pas là s'il ne nous avait pas créé ? Est-ce que nous nous y accrochons comme quelque chose qui nous est dû et dont on donne une petite marge lorsqu'on a fini tout le reste, tous les projets vraiment importants de la vie, et puis s'il reste un petit quelque chose, on peut soutenir l'œuvre du Seigneur ? Posons-nous cette question. Un dernier exemple, également très présent dans notre contexte. Le monde qui nous entoure érige en valeur absolue la vie de couple, et plus encore sans doute la sexualité. Et pour beaucoup de nos contemporains, réussir en amour, vivre un épanouissement affectif, relationnel, physique, c'est essentiel. Et si on n'a pas ça, on rate sa vie. Et si ça ne marche plus dans le couple actuel, eh bien, on refait sa vie, comme on dit. Une expression très révélatrice et profondément illusoire. On ne peut pas justement refaire sa vie, sinon avec le Seigneur. Pour les chrétiens célibataires, mais aussi dans une certaine mesure, pour les couples chrétiens qui ont choisi l'engagement exclusif, quels que soient les aléas de la vie, quels que soient les aléas des années, eh bien, il est important de nous rappeler que l'homme qui a découvert le trésor dans le champ l'a estimé si précieux que sans hésiter, il a été prêt à renoncer à tout pour le saisir, lui. Alors, comprenez-moi bien, je ne dis pas que Jésus nous demande de renoncer tous à être considérés de manière positive par les gens autour de nous, ou de renoncer à un salaire, ou de renoncer au mariage. Mais estimons-nous le royaume si infiniment précieux que nous serons prêts, non seulement à ne plus définir notre vie par ces choses, mais à renoncer à tout droit, à toute revendication sur elles. Non pas parce que nous rejetons cela, parce que nous estimerions ces choses méprisables, mais parce que ce que nous ne voulons surtout pas rater, c'est la vie avec Christ. Est-ce que nous croyons vraiment que nous étions en train de foncer vers la futilité, la perdition, la mort, et que Dieu lui-même est venu nous en arracher par la violence de la croix ? Sommes-nous frappés encore et encore par la rencontre stupéfiante d'un Créateur venu vers nous, venu à notre rencontre pour nous lier à lui pour toujours ? Donc la première idée forte de ces deux paraboles, c'est une découverte qui émerveille. Et la seconde, je serai un peu plus bref sur cette seconde, nous avons déjà commencé un peu à l'aborder, c'est une rupture qui s'impose. Une rupture qui s'impose. Alors je reviens à la parabole du trésor caché. Dans un sens, c'est un peu un filou, notre homme. Parce que j'imagine qu'un bon citoyen, et d'ailleurs c'est bien d'être un bon citoyen et de lutter contre la corruption, je ne reviens pas du tout sur ce qui a été dit, mais un bon citoyen, j'imagine, se serait rendu à la préfecture de police de Galilée, aurait fait la queue pendant 4 heures, aurait rempli deux formulaires BZ242, aurait fait une déclaration, ou au minimum, il aurait informé le propriétaire du champ de sa trouvaille. C'est quand même à lui qu'appartient le champ. Mais notre homme ne dit rien, il recache le trésor. Et puis, le malin, il va acheter le champ entier. A priori, en lisant entre les lignes, sans informer le propriétaire de l'existence du trésor. Jésus n'est pas ici en train de recommander une manière d'agir face à une découverte, face à la découverte d'un bien. Attention, on est face à une parabole. Ce n'est pas du tout. C'est le danger de pousser à l'extrême les détails d'une parabole. Jésus ici veut attirer notre attention avant tout sur les derniers mots du verset 44. L'homme va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Parce qu'il a compris que la valeur du trésor était inestimable, notre homme a été prêt à vendre tout ce qu'il possédait pour acheter le champ. Ici encore, attention à ne pas mal comprendre. L'idée n'est pas que ses biens était suffisant pour acquérir le trésor. Mais plutôt que l'homme a été prêt à tout donner pour acquérir le champ. Autrement dit, pour s'assurer de la saisie du trésor, pour surtout ne pas rater le trésor. Ce n'est pas le trésor qu'il a acheté, c'est le champ. Alors ici encore, certains commentateurs dissèquent cette petite histoire en essayant de chercher un sens à chaque détail, en disant que, qu'est-ce que ça veut dire acheter le champ, etc. Je pense que cela, encore une fois, on fait fausse route, si on va dans ce sens-là. Il me semble que Jésus a simplement voulu mettre l'accent sur la nécessité d'une action radicale pour saisir le royaume de Dieu. C'est le royaume qui vient vers nous, bien sûr, mais il s'agit de le saisir. Et on vient de le voir, la découverte du trésor, c'est une découverte qui émerveille. Et Jésus veut que nous remarquions le geste extrême consenti par un homme qui a été prêt à tout vendre, à se défaire de tous ses biens actuels, et qui a été prêt à faire preuve d'une certaine ruse et d'une détermination implacable pour saisir ce trésor. Et d'ailleurs, à plusieurs endroits dans les évangiles, le royaume de Dieu est présenté comme quelque chose qu'il faut être prêt à tout faire pour saisir, qu'il ne faudrait surtout pas laisser passer. Une réalité si précieuse qu'il faut être prêt à tout pour s'en emparer. Et Jésus va jusqu'à dire, si je comprends bien cet autre texte difficile et très discuté, mais si je le comprends bien, il va jusqu'à dire qu'il faut faire preuve d'une certaine violence pour saisir le royaume de Dieu. Matthieu 11, 12. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Non pas la violence des armes, mais la détermination implacable de celui qui a découvert le bien le plus précieux qui soit. Lorsque Jésus, par ailleurs, rencontre un jeune homme riche, texte bien connu, qui lui demande comment avoir la vie éternelle, c'est une autre façon de demander comment entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, Jésus lui répond en ces termes, Matthieu 19, 21, « Va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Partout dans le Nouveau Testament, on le constate, la bonne nouvelle, c'est une tellement bonne nouvelle qu'il faut la saisir à tout prix. Et c'est intéressant de voir que lorsque Jésus, par exemple, guérit des malades, l'accent mis par l'Évangile, dans les Évangiles, n'est pas tant sur la guérison elle-même. Par exemple, on n'a pas un bilan de santé un mois après. Il ne nous est pas donné de détails sur tout ce que la personne a pu faire ensuite à nouveau. Aujourd'hui, si on faisait un reportage, on verrait la nouvelle vie de la personne, etc. Non, ce n'est pas ça qui intéresse tellement les évangélistes. L'accent est plutôt mis sur le caractère transformant de la rencontre avec Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que l'accent est mis là-dessus? La question se pose. Et si Jésus a été si incroyablement disponible pendant son ministère terrestre, pour guérir, pour bénir, pour enseigner inlassablement à longueur de journée, eh bien c'est parce que, par sa simple présence, il invitait les hommes et les femmes qui l'entendaient à découvrir le trésor caché, à comprendre qu'il est lui, celui qui porte, plus encore celui qui incarne et qui accomplit par sa personne cette bonne nouvelle à une valeur, à la valeur incalculable. Et de même, l'homme qui a trouvé la perle unique de grande valeur, il a arrêté de chercher, il a cessé sa recherche, il a cessé son activité de marchand pour aller au contraire tout donner afin de saisir cette perle. Alors, l'image est peut-être un peu saugrenue. Imaginons un enfant perdu dans un magasin de bonbons qui, au fil du temps passé, noie son angoisse d'avoir perdu ses parents en mangeant des bonbons pour faire passer le temps. Il continue à manger des bonbons. Imaginez maintenant que son père le retrouve après un certain temps. Que va faire l'enfant? Est-ce qu'il va se jeter dans ses bras et laisser son père l'emmener hors de ce magasin? Ou est-ce qu'il va continuer à marcher aveuglément, à se distraire, à oublier par ses bonbons qu'il appartient à ce père, sans comprendre que le temps est venu de sortir d'une vie fausse pour retrouver la vraie vie? La bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce n'est pas un concept qu'on comprend, même s'il s'agit bien sûr de la comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui apporte un petit éclairage sympathique à notre vie. La bonne nouvelle, c'est Dieu qui intervient dans notre dimension humaine, dans notre existence, avec fracas, avec le sang, la sueur et les larmes du Seigneur crucifié, pour nous arracher d'un monde impie qui court à sa perte et dont le temps est compté. On entend parfois dire qu'être chrétien signifie qu'on doit sacrifier certaines choses pour Dieu. Et il me semble, à la lumière entre autres de ces deux paraboles, que c'est profondément se méprendre sur la nature de l'Évangile. C'est Christ qui s'est sacrifié pour nous, et pas l'inverse. Et si nous renonçons effectivement à certaines choses, à certaines revendications, pour le suivre et pour lui obéir, ce n'est pas par sacrifice, c'est très intéressé. Nous voulons au contraire ce qu'il y a de plus précieux, nous voulons ce qui seul peut nous combler, c'est-à-dire de connaître Dieu. Être chrétien, c'est faire une découverte tellement stupéfiante, tellement magnifique, que le reste de la vie, y compris dans ces moments de souffrance bien réels, eh bien le reste de la vie sera pour toujours placé sous le signe de cette découverte magnifique. Si quelqu'un ce matin n'a pas encore trouvé le trésor dans le champ, la perle de grande valeur, je vous encourage à venir me voir, ou à aller voir Paul ou l'un des autres responsables de l'Église pour en parler. Il serait terrible pour vous de passer à côté de la plus magnifique des découvertes et de poursuivre votre chemin comme si de rien n'était.